Écoute,
émission. Génération
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow.
Je dis pas toi.
Toi et moi nous sommes génération grand lac. Ensemble, construisons notre avenir.
Bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Tout dépend bien sûr de l'heure et de l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue une fois de plus dans ce nouveau rendez-vous des Générations Grand Lac GGL. Cette émission qui donne la parole à vous jeunes du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. C'est tous les samedis que nous sommes ensemble. Et spécialement en cette période des festivités de fin d'année, nous disons d'entrée de jeu, bonne année 2013 à vous tous jeunes du Rwanda, du Burundi et de la RDC qui nous suivez en ce moment. Et puisque les fins de l'année riment avec cadeau, eh bien GGL vous offre vos voix, vos idées, tout ce que vous avez partagé avec nous au cours de l'année 2012. C'est notre rétro GGL 2012. Bienvenue parmi nous.
Mais c'est quoi Génération Grand Lac?
Oh, c'est tout simplement un rendez-vous interactif des jeunes du Rwanda, du Burundi et de la RDC qui échangent chaque samedi sur vos radios.
Isanganiro de Bujumbura,
Isango Star de Kigali,
Salus de Butare,
Misha Pivo et Stevie de Goma
et la RTGA de Kinshasa.
De Kibuye en passant par Byumba, Kigali et Butare au Rwanda, à Matadi, Rutshuru, Kananga, Kisangani et Kinshasa en République démocratique du Congo, ou encore de Ngozi, Gitega et Bujumbura au Burundi, sur Facebook, email, par SMS ou encore au téléphone, vous avez été nombreux à prendre part à nos émissions au cours de cette année 2012 et nous vous remercions vraiment de tout cœur pour votre fidélité à Génération Grand Lac. Un autre remerciement va à l'endroit de tous ces adultes, ces personnalités politiques, commerçants, juristes, analystes politiques, défenseurs de droits de l'homme, chanteurs, religieux, économistes, experts de la sous-région des Grands Lacs ou encore ces stars, vous tous qui avez fait des Générations Grand Lac une émission des rêves en acceptant de prendre part à nos émissions ou en direct comme invité, et cela pour éclairer la jeunesse sur les questions qui concernent notre sous-région. Et pour cette année 2012, ils ont encore été nombreux. L'honorable Mwindo Nzangi, député de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, le chanteur Kizito Mihigo du Rwanda, Félix Ouazekwa, chanteur congolais, Scott Campbell, représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, Théos Badegué, porte-parole de la police rwandaise, Franck Diongo, député national congolais, Maître Jean-Philbert Sengimana, ministre rwandais de la jeunesse et des nouvelles technologies, et bien d'autres. Que tous retrouvent ici nos remerciements et ceux de tous les jeunes de la sous-région des Grands Lacs pour leur contribution dans l'échange entre les jeunes de nos trois pays à travers l'émission Génération Grand Lac. Merci encore de suivre cette spéciale Génération Grand Lac où nous vous proposons quelques extraits sur certains débats que nous avons eus ensemble au cours de l'année 2012. Et pour ce voyage rétrospectif à travers l'année 2012, votre guide s'appelle Nicolas Gatambi de Search for Common Ground. Je vous souhaite de faire un très bon voyage à ma compagnie. Nous allons bientôt décoller.
Attention, attachez vos ceintures, détendez-vous, nous allons décoller.
Bienvenue à bord des Générations Grand Lac. Nous vous disons d'avance que vous ne pourrez pas participer en direct dans cette émission qui est préenregistrée, mais vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions sur notre adresse email radiogl@yahoo.fr ou encore nous laisser vos messages sur notre page Facebook Génération Grand Lac, Grand Lac au pluriel. Commençons notre voyage dans le couloir et méandres de 2012 par un certain 14 janvier 2012. Nous sommes dans les studios de la radio Isanganiro au Burundi, où nous retrouvons nos collègues Cynthia Ngendakourio de la radio Isanganiro et Clarisse Kawere de la radio Salus de Butare. Le débat est d'actualité. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui explique la présence de groupes armés dans les Grands Lacs. Avec nous au studio, le père jésuite Yamour Emye Désiré, qui est en même temps analyste politique.
Nous disons en analyse politique que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi je dis, pourquoi est-ce que les mouvements armés naissent? Souvent, un peu partout ailleurs, au Burundi, au Rwanda, comme en RDC, les mouvements armés sont nés à cause du manque de la bonne gouvernance, à cause des injustices sociales. Et chaque fois qu'il y aura des injustices sociales dans un pays X et qu'on fait recours à la force mais pas au dialogue, vous aurez toujours des gens qui voudront réclamer par des moyens forcés. On peut retrouver l'historique. En 93, dans ce pays, j'imagine un scénario si on n'avait pas renversé par force le président Dadaï. Je ne pense pas qu'il allait y avoir un mouvement armé qui allait naître. Si l'environnement avait laissé les réfugiés rwandais rentrer, et c'est ça qu'ils réclamaient, il n'y aurait pas de réclame politique qui s'est achevé par la guerre et par la non-réalisation des accords d'Arusha, parce qu'il y a des accords d'Arusha du côté du Rwanda qui n'ont pas abouti à ce qu'ils avaient prévu. Je me dis que, résiduel ou pas, il ne faut pas s'attaquer simplement par force aux groupes armés, mais il faut s'attaquer aux causes des groupes armés dans la région des Grands Lacs.
Ce débat sur les groupes armés intéresse les jeunes. Sur Facebook ou en direct du Rwanda, du Burundi et de la RDC, ils donnent leurs avis sur la question, et cela à cœur ouvert.
Comment appréciez-vous la manière dont sont gérés les groupes armés dans les Grands Lacs? Nos reporters ont posé cette question aux jeunes de nos trois pays. Nous commençons par Butare au Rwanda.
C'est toi-même, Clarisse, que tu as rencontré quelques jeunes et ils se sont exprimés sur cette question. Écoutons leurs avis.
Je ne suis pas beaucoup satisfait par la façon dont la question des forces armées au Congo est gérée parce que, comme vous le savez, ce problème a attiré l'attention de la communauté internationale, mais on ne comprendrait pas comment, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mettre fin à ce problème. Je pense que la communauté internationale, l'ONU, en collaboration avec ces États concernés, devrait fournir beaucoup d'efforts pour mettre fin à ce problème.
Je pense que des États ont essayé d'encourager ces gens de revenir dans leur pays, mais je vois que surtout on a essayé d'utiliser la force. Vous voyez de différentes opérations qui se sont déroulées là-bas au Congo. Moi, je pense que ça serait mieux si encore on essaie de procéder par la table de négociation. Si on essaie quand même d'écouter à ces gens-là, peut-être qu'ils ont d'autres idées différentes de ces récompenses. Donc, j'apprécie quand même certains efforts qu'on a fait, mais je pense encore qu'il serait mieux si on essaie de procéder par la table de négociation, d'écouter ces gens-là, leurs idées, et voir la façon qui est la meilleure.
À mon avis, je n'apprécie pas la manière dont est gérée cette question des forces armées dans les Grands Lacs, car elle n'a pas abouti au bon résultat. Je pense que la participation de la population devrait être la bonne manière, la bonne solution à ce problème, comme ça a été le cas des abattis indésirés aussi au Rwanda.
Je n'apprécie pas vraiment la manière dont on fait, parce que les forces armées naissent et les autres disparaissent, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il faut qu'il y ait une commission qui est chargée de cette situation, mais aussi il faut qu'il y ait le partage égal du pouvoir. Il y a des partis politiques qui s'emparent du pouvoir et ils ne veulent pas d'intégrer les autres partisans d'une telle partie politique.
Après ces jeunes de Butare, on passe le micro aux jeunes de Kinshasa.
Congo, on dit quoi?
La gestion des groupes armés dans la sous-région des Grands Lacs se fait de manière chaotique au détriment de la République démocratique du Congo, fort malheureusement. Les États voisins qui s'estiment présentement puissants, imposent leurs lois sur la République démocratique du Congo à travers justement ces groupes armés qui écument notamment la partie orientale de la RDC.
On nous a dit par le gouvernement qu'il y avait déjà des accords qui ont été faits avec ces pays des Grands Lacs pour trouver une issue favorable. Et malheureusement qu'aujourd'hui, ça continue toujours avec notamment les FDLR, les groupes de rebelles, des CONI. Les acteurs politiques doivent se mettre ensemble et trouver une fois pour toutes une solution. Peut-être aussi qu'il y a des puissances qui sont derrière tout ça parce qu'ils veulent absolument gérer les pays des Grands Lacs et ils passent par ces groupes armés.
Moi, j'apprécie de manière positive parce que quand on n'a pas assez de forces, on doit se liguer pour monter des stratégies ensemble de manière à ce qu'on puisse débooster hors du territoire tous ceux qui comme rebelles, comme le belligérant. Si la collaboration des part et d'autre, on arrivera certainement à mettre fin à cela.
La question des groupes armés n'est pas très bien gérée dans la région des Grands Lacs. Quand les États-Unis doivent aider les pays des Grands Lacs à résoudre ces problèmes, c'est-à-dire que les pays de la région des Grands Lacs sont incapables par eux-mêmes de résoudre cette question qui sème l'insécurité sociale et économique dans la région des Grands Lacs. Parce que ces groupes armés-là, ils vivent de nos richesses. Si nos pays étaient des pays où la justice règne réellement, il n'y aurait pas formation de tous ces groupes armés-là. Il y en a qui ne peuvent pas rester dans leur pays parce qu'ils sont comme des réfugiés politiques, ils sont pourchassés par le pouvoir en place, ainsi de suite. Ils se transforment en groupes armés, ils se mettent à piller les richesses de la région des Grands Lacs pour faire vivre leurs organisations.
Ça nous concerne. Parlons-en.
Voilà, vous venez donc d'écouter ces jeunes de Boutaré et de Kinshasa. Certains apprécient, d'autres déplorent la manière dont est gérée la question des groupes armés. Monsieur Yamourémié, que dites-vous de leurs avis?
Ben, je crois que les avis sont partagés, mais il y a quelqu'un qui est revenu sur notre affaire, c'est la question économique. Vous savez, quand vous êtes dans des pays où les citoyens sont paupérisés, quand je parle de la paupérisation, vous savez, c'est au-delà de la pauvreté, et que vous avez toute une jeunesse qui est en chômage, ça veut dire que tous les entrepreneurs politiques sont prêts à manipuler ces jeunes pour les amener sur le chemin de la violence. Évidemment, cela n'est possible que quand nous n'avons pas des États bien organisés, des États qui parviennent à embaucher la jeunesse, des États qui parviennent à avoir une jeunesse utile et qui parviennent à organiser leurs États en termes de nations. Alors, à ce moment-là, si tel n'est pas le cas, les entrepreneurs politiques sont prêts, évidemment, à utiliser les forces armées pour aussi accéder au pouvoir. Et j'imagine que nous n'avons pas une autre solution que de démocratiser nos États. Justement, démocratiser nos États, ça veut dire entrer dans la bonne gouvernance. Il ne faut pas faire de la région des Grands Lacs une région où on doit avoir une force armée pour accéder au pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est cette dynamique-là, ça c'est mon impression, que la dynamique des Grands Lacs, c'est j'ai une force armée, donc je suis capable de diriger ou de rester au pouvoir. Alors, les autres aussi se disent, attends, il faut aussi que j'en cherche, comme ça j'accède aussi au pouvoir. Il faut démocratiser nos États, il faut en faire des nations, des États développés, et on aura une jeunesse dynamique qui est au service de ces nations.
Les jeunes sont-ils associés à la prise des décisions politiques? Quel risque de ne pas associer les jeunes dans les prises des décisions politiques? Telles sont les quelques questions au cœur du débat des générations Grand Lac du 4 février 2012. Nous sommes en direct des studios de la radio Isanganiro de Bujumbura au Burundi. Pacifique Chubairo du Burundi et Marie-Noël Kabuya de Goma sont aux commandes de cette émission.
Êtes-vous consulté dans la prise des décisions politiques? C'est ça la grande question, n'est-ce pas, Pacifique? Voici donc les jeunes du Rwanda et du Burundi qui vont s'exprimer, n'est-ce pas?
Ils vont s'exprimer, mais commençons par le Rwanda, plus précisément à Butare et les jeunes sur cette question. On va pouvoir les entendre. Ils sont au micro de Noël de Kuzumuremi de la radio Salus de Butare.
Rwanda, on dit quoi?
Je pense qu'ici au Rwanda, on ne consulte ni nous les jeunes, ni les autres personnes. Il y a des personnes de haute personnalité qui décident pour les autres, pour le peuple. Quand ça réussit, ça réussit. Et quand ça faillit, ça faillit. Parce qu'on n'a pas consulté les gens, ou les jeunes gens. Toujours, les politiques de l'État tombent sur nous, les jeunes, et le peuple en général.
Oui, surtout chez nous, comme nous, jeunes africains, les décisions politiques, surtout, on ignore nous. Parfois, les décisions politiques sont prises par les gens et nous sommes en conséquence avec ces décisions. Nous sommes les observateurs de ces pannes.
Je dirais que les jeunes n'ont pas un rôle actif dans la politique de la nation. Parce que les jeunes eux-mêmes veulent s'exclure.
Burundi, on dit quoi?
franchement parlant, ici au Burundi, non seulement on n'est pas associé, on n'est même pas considéré, on est mis à l'écart. Moi, je dirais qu'on n'est pas associé parce que on trouve que toutes les décisions qui sont prises tombent comme des gouttes de pluie. Donc, ça tombe du haut et ça s'applique sur nous, que ce soit bon ou mauvaise, que ça nous favorise ou pas. La jeunesse burundaise, la jeunesse africaine, on est mis à l'écart.
Non, quand on considère comment on conçoit la politique africaine ici, on voit bel et bien que les jeunes ne sont pas associés dans la prise de décision. Les politiciens eux-mêmes, qui sont censés nous représenter dans la vie politique, ce qui les intéresse, ce sont les intérêts, non pas les intérêts de la jeunesse.
Bon, moi, je vois que les jeunes ne sont pas considérés dans la prise de décision ici au Burundi, parce que bon, les jeunes ne sont pas consultés. On voit que il y a même certaines décisions qui sont à l'encontre des opinions des jeunes. Donc, c'est pour cela que je dirais que les jeunes ne sont pas considérés dans la prise de décision au Burundi.
Et voilà, merci professeur Siméon. Vous venez d'entendre ou d'écouter les avis de ce jeune Burundais et Rwandais. Pratiquement tous les jeunes de ces deux pays qu'on vient d'écouter disent tous la même chose, comme quoi ils ne sont pas consultés dans la prise de décision. Quel est votre avis sur ce qu'ils viennent de dire ces jeunes?
Disons que je ne dirais pas totalement ce qu'il vient de dire, parce que avoir la configuration vraiment démographique de notre pays, on remarque que quand même les jeunes sont nombreux dans notre pays. Ils sont la majorité. Hein. Mm-hmm. Mais là où peut-être, le fond de la question, à mon avis, c'est pas la participation, c'est plutôt le résultat de cette participation. Parce que même s'ils sont associés, leurs paroles, leurs forces, la portée de leurs recommandations, c'est limité, etc. Et ça ne résout pas réellement les problèmes, parce que je vous ai dit que les problèmes sont immenses. Mais au niveau formel, ils sont associés. Mais peut-être, je ne sais pas comment les jeunes aimeraient qu'ils soient associés. C'est peut-être de former un grand... une grande association qui les représente. Mais sinon, ils dispersent les forces dans plusieurs associations. Et quand des fois le gouvernement met en place un forum, c'est des fois un forum qui est politisé. Et c'est là où il y a un problème. Est-ce que la représentation des jeunes, est-ce que c'est vraiment la représentation que les jeunes aimeraient, ou bien c'est une représentation qui est télécommandée, téléguidée par les pouvoirs politiques? C'est là où il y a ce problème-là. Les jeunes sont associés, mais peut-être ceux qui représentent les jeunes ne sont pas les mieux indiqués pour les représenter, puisqu'ils sont de mèche parfois avec le pouvoir.
Participe à cette émission comme invité le professeur Siméon Barumwete, analyste politique et enseignant à l'Université du Burundi. Pour lui, il y a des risques si les jeunes ne sont pas associés à la prise des décisions politiques. On écoute.
Avoir ce que nous venons d'entendre, c'est que ne pas associer les jeunes dans la prise de décision, ça conduit, il y a un phénomène qu'on n'a pas bien mentionné, mais ça peut conduire à la dépolitisation des jeunes. Ça veut dire des jeunes qui n'ont plus confiance dans la politique et par conséquent qui n'ont plus confiance dans les institutions. Et par conséquent, comme Agnès vient de le dire, qui peuvent se mettre dans des entreprises parfois de remise en cause de l'État, dans des rébellions ou dans des guerres, etc. Or, dans nos sociétés qui sont très fragiles, surtout pour les sociétés des Grands Lacs, ce sont des sociétés qui sont très fragiles et qui ont besoin d'être reconstruites par toutes les forces vives de la nation. Et pour cela, si vraiment nous voulons des sociétés stables, démocratiques, il faut associer les jeunes parce qu'ils constituent la majorité de la population. Il faut les associer, il faut tenir compte de leurs vrais problèmes pour que les politiques publiques soient vraiment le reflet des besoins spécifiques des jeunes. Sinon, on peut courir le risque de retomber dans des violences toujours généralisées.
Rwanda, Burundi, Nakongo. Génération Rendons-nous à présent à un certain 18 février 2012. Pour la première fois, notre consoeur Cynthia Ngendakuriyo quitte son Burundi natal à destination de Kinshasa, la capitale congolaise, où elle va présenter une émission aux côtés de son confrère François Kadima, alors journaliste à la RTGA. L'accueil se passe plutôt bien, avec une Cynthia qui s'émet même à dire quelques mots, et en lingala s'il vous plaît.
Donc je disais qu'elle nous vient du Burundi, elle est journaliste à la radio Isanganiro. C'est avec un plaisir que nous l'accueillons ici à Kinshasa. Bonjour Cynthia et bienvenue chez nous.
Bonjour Francky. Bonjour aussi à tous les Kinois à qui je dis déjà ces premiers mots appris durant une semaine passée avec vous.
Allez-y.
Mote nabinonyo sobanakin nasepeli ming kozala. J'espère que j'ai bien dit.
Ouais, tu l'as bien dit. Donc elle dit qu'elle est contente d'être ici à Kinshasa avec nous.
Sûrement.
Ok.
Cynthia Ngendakuriyo, déjà à Kinshasa, quelques mots à Lingala. Eh bien, la chère burundaise semble bien se plaire à Kinshasa. Et dans cette émission qu'elle anime avec François Kadima, il est question de la démographie dans les Grands Lacs. Une vraie préoccupation des jeunes, et ce phénomène a des conséquences graves, comme nous l'a d'ailleurs témoigné Magloire, cet auditeur qui nous avait appelé depuis Kinshasa.
Allô Magloire.
Allô.
Oui Magloire, bonjour.
Bonjour.
Oui, faut-il craindre que cet accroissement ou cette démographie galopante ait des conséquences surtout
sur nos sociétés.
Dans la société?
Mm-hmm. Oui, ça doit donc avoir beaucoup de conséquences. Mm. Parce que une famille illimitée, c'est une famille à problème.
Quelles conséquences?
Les conséquences, il y en a beaucoup. D'abord, pour manger, il faut se donner des codes. Dire, par exemple, la télévision est dans la chambre, pour dire que le foot est tout dans la chambre, de manière à ce que les enfants puissent aller manger et laisser les visiteurs dehors. D'autres conséquences, c'est on ne sait pas gérer les enfants. On trouve aujourd'hui sur la ville de Kinshasa et dans nos provinces, les enfants dans les rues, les enfants donc qui sont dans des mines de diamants, les enfants qui n'étudient pas parce que il faut des fois privilégier donc les garçons et laisser les filles à la maison. Tout ça, ce sont les conséquences lorsqu'on se retrouve avec des enfants qui sont tellement nombreux dans la famille.
Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios.
Isanganiro de Bujumbura,
Isango Star de Kigali,
Salus de Butare,
Mishapi Voice TV de Goma
et la RTGA de Kinshasa. Génération 25 février 2012. La radio Isango Star de Kigali accueille le 26e numéro des Générations Grand Lac. Ce jour-là, GGL se propose d'échanger avec les jeunes sur une question tout aussi d'actualité. De plus en plus, dans la région des Grands Lacs, on parle des vies chères. Qu'en pensent les jeunes? Ils nous en ont parlé dans cette émission animée par Sheka Irumbo Fayed de Mishapi Voice TV de Goma avec Sandrine Isheja de la radio Isango Star de Kigali. Au studio, comme invité, un professeur congolais, Abeli Matakala Kantoko II, qui enseigne au Rwanda, voilà de cela près de 15 ans. Et ce n'est pas rien.
Allô.
Allô.
Oui.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où?
Je m'appelle Marc et je suis dans l'Université nationale de Butare.
À Butare, au Rwanda.
Ah ouais.
Marc, comment se présente le coût de la vie au Rwanda ou à Butare particulièrement?
Effectivement, c'est trop cher. Il y a de la part de l'État. Parce que si on augmente des taxes, la vie doit être chère.
Et qu'est-ce que la vie chère peut avoir comme conséquence dans nos sociétés des Grands Lacs, Marc, selon toi?
Évidemment, on doit remarquer des conflits dans la population. Par exemple, si au Rwanda, il y a des gens qui doivent avoir de la haine entre la population parce qu'ils sont pauvres.
Merci beaucoup pour cette intervention.
Mm-hmm. Et de retour au studio avec notre invité, Monsieur Matankala. Vous venez d'entendre cet avis du jeune de Butare, Marc. Et selon vous, quelles peuvent être les conséquences de la vie chère dans nos sociétés?
Si la vie chère a beaucoup de conséquences. On commence d'abord au niveau de la cellule, de la famille. Mm-hmm. Dans un foyer, quand le papa n'est plus à mesure d'acheter à manger pour ses enfants, de vêtir son épouse, ça crée déjà un conflit. D'une manière générale, la vie chère crée beaucoup de mécontents. Et ces mécontents peuvent facilement recourir à d'autres moyens pour assurer leur survie. Il y a la prostitution pour nos jeunes filles, il y a la corruption qui intervient, les détournements, les banditismes, les viols, les divorces, et la consommation de drogues, les vols, les taux élevés d'analphabétisme, les phénomènes enfants de la rue, etc. Et sans oublier aussi, dès qu'il y a un taux élevé de chômage, les mauvaises langues peuvent en profiter dans la création des rébellions, par exemple, des groupes armés. Quelqu'un qui a terminé les études, il a déjà fait 5 ans sans avoir trouvé du boulot. Il est très sensible devant des déclarations de malfaiteurs. Il suffit tout simplement de venir les recruter. Il va dire non, non, je vais prendre une arme. C'est maintenant ou jamais.
Rwanda, Burundi, na Congo.
Génération Grand Lac.
Le mois de mars 2012, la femme a été à l'honneur dans Génération Grand Lac. 5 émissions au total lui ont d'ailleurs été consacrées. Un bond en avant nous amène au 12 mai 2012. Nous sommes en direct de la radio Isanganiro de Bujumbura. Le débat en vaut la peine. Il s'agit de savoir quel est l'état de la qualité des services dans nos trois pays. Comme invité dans notre studio, nous recevions M. Pierre Claver Nduimana, professeur des universités au Rwanda et au Burundi, en option marketing. À la présentation de cette émission, retrouvons Pacifique Chubahiro de la radio Isanganiro et Achille Mazimhaka de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Et disons-le en passant, Achille présente sur sa radio à Kigali une émission en Lingala, s'il vous plaît.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour Pacifique Ndengenini.
Bon, tout va bien.
Bonjour Benakin, atmosphère, climat et Ndengenini Kuna.
Non, il y a trop de temps Ndengenzawana, donc ça va bien. Moi, vraiment, ils ont ma qualité, mais
oui. Ça va. Ok, Pacifique, comment appréciez-vous la qualité de service en RDC, plus précisément à Kinshasa?
Bah, d'abord, quand il faut parler des services publics, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'affinités à Kinshasa.
Ouais.
D'autant plus que l'accès aux services publics pose problème. Ça pose problème de quelle manière? Vous avez besoin, par exemple, d'un document auprès de l'officier de l'état civil, à la commune ou à la mairie, si vous voulez bien, pour qu'on vous donne ces documents par la voie officielle, il faut mettre au moins 30, 40, bon, tu peux passer une année sans qu'on te donne ces documents. Et donc, il faut passer par la corruption, ce qu'on appelle les pots de vin.
Oui, je vois.
À cet officier de l'état civil, remettre à ses receveurs autant d'argent et tout. C'est comme ça. Il n'y a pas que ça. Même quand vous allez au plus haut niveau des choses, vous vous rendez compte que pour tout service de l'État, pour qu'on vous facilite l'accès, ça pose problème. Mais en tout cas, il faut recourir par des parapluies, appeler bon, son frère qui est député, attendre l'intervention de son cousin qui est ministre. Donc, quand on n'a pas de connaissances et qu'on n'a pas d'argent pour corrompre, il faut mettre au moins autant de jours pour que ce service, qu'on pourrait vous rendre dans 24 heures, vous soit rendu au-delà de 30-45 jours.
Oui, Pacifique, d'après vous, qu'est-ce qui explique ces difficultés pour remplir le service vis-à-vis de clients ou de patients?
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à Kinshasa, l'administration publique est foutue, ne fonctionne pas. Donc, okay. À Kinshasa, quand on vous appelle fonctionnaire de l'État, c'est que c'est un monsieur qui ne représente pratiquement rien. Et le matin, quand il va au bureau, il va au bureau pour quelques minutes, il signe et il sort. Il ne sont jamais présents au bureau. Ce qui pose des problèmes. Mais aussi la rémunération pose problème. Un fonctionnaire congolais touche à peine 25 à 35 dollars. Imaginez-vous, à Kinshasa, pour avoir une maison, c'est au-delà de 500 dollars. Et quand on a eu un salaire de 20, 25 à 35 dollars, environ 20 euros, qu'est-ce que ça peut faire quand on sait que ce papa ou cette maman est père ou mère de famille?
Merci. Il y a également une auditrice de Kigali qui s'est exprimée sur comment elle apprécie la qualité de service au Rwanda. Et ici, on va l'écouter.
Dans tous les secteurs, disons le secteur public, privé ou dans les activités ou les services donnés par les organisations non gouvernementales, il y a au Rwanda un problème de la qualité des services qui est encore basse. Je peux donner certains exemples. Dans le secteur public, parfois les autorités locales ne sont pas facilement accessibles. Vous pouvez avoir un paysan qui quitte chez lui pour aller demander un service dans un bureau de district ou dans un bureau de secteur. Il va pour la première fois, on lui dit « reviens demain » et le lendemain il s'y rend et finalement il peut circuler deux ou trois fois sans, savoir trouver le service qu'il demande parce que la personne qui est censée lui donner ce service n'est pas là. Il y a une maladie, je dirais une maladie des autorités qui sont toujours à réunion. Alors, ça bloque la qualité des services qui devraient être donnés à la population. Parce que si les gens sont toujours en réunion, ils sont souvent en réunion, c'est-à-dire que les jours qui étaient réservés pour l'accueil des requêtes des paysans ne sont pas respectés. Alors que ces gens ne sont pas informés que telle autorité aujourd'hui ne sera pas disponible, ne venez pas. Au Rwanda, le service de qualité, c'est vraiment un problème, ça reste à désirer. C'est quelque chose que les gens sont en train de voir, c'est quelque chose que les différents secteurs sont en train de discuter sur ça pour voir dans quel sens au Rwanda les gens peuvent améliorer les services donnés aux clients ou aux consommateurs.
On retourne au studio.
Oui, on retourne au studio par rapport à ces conséquences.
Oui, oui c'est ça.
Il y aurait-il d'autres conséquences possibles?
Ouais. Oh, oui, vous en avez parlé au début, l'étude de la Rwanda Development Board. La mauvaise qualité de service fait perdre au Rwanda 24 milliards de pence de francs rwandais par an. Vous imaginez, et encore, c'est un pays, le Rwanda, c'est un pays qui mieux positionné par rapport au Burundi et au Congo. Mais malgré cela, il y a là aussi des efforts à faire. Vous imaginez maintenant les pertes, les conséquences en termes de perte de temps et d'argent et de lenteur. La lenteur fait perdre beaucoup, beaucoup de temps et d'argent et ralentit, bien sûr, le développement économique d'un pays. Le PNB ne va jamais augmenter si l'administration publique, les services publics ne sont pas rendus. Vous imaginez, si vous voulez un visa pour venir au Burundi et pour investir, que ça vous prend une semaine, deux mois pour avoir un visa. Et si vous voulez un document juste pour commencer une entreprise, qu'il vous faut 3-4 mois, il y a des conséquences en cascade. Vous imaginez si une facture d'une entreprise traîne sur le bureau d'un directeur d'un service public, eh bien, c'est de l'argent qui est bloqué, qui n'est pas en train de faire tourner l'économie. Tout cela fait perdre beaucoup de temps et d'argent dans un pays et c'est vraiment dommage que les gouvernants ne se rendent pas compte.
Nous venons d'atteindre notre première escale.
Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes toujours à l'écoute des Générations Grand Lac. Dans son édition spéciale sur la rétrospective de nos émissions au cours de l'année 2012, à la présentation de cette émission, Nicolas Gatambi de Search for Common Ground. Merci de nous rester fidèles. Et merci à vous qui nous suivez sur Internet.
Génération Grand Lac, c'est aussi sur le net.
Suivez-nous sur www.isanganiro.org, www.groupelavenir.cd, www.isangostar.org ou encore www.michapivoicetv.net.
Envoyez-nous vos emails sur radio.ggl@yahoo.fr.
Vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur la page Facebook Génération Grand Lac.
En ce mois de juillet 2012, l'actualité est dominée par la reprise de la guerre dans le Nord Kivu. Lundi 9 juillet 2012, à Goma, la situation était tendue. Des jeunes en colère ont manifesté contre la guerre à l'Est. Manifestation qui a connu des violences envers certaines communautés. Plusieurs dizaines de Rwandais, étudiants et commerçants étaient d'ailleurs rapatriés d'urgence de l'autre côté de la frontière. Et le sentiment anti-rwandais s'était propagé à une partie de la population de la ville de Goma. C'est dans ce contexte que Génération Grand Lac débarque à Goma pour échanger avec les jeunes sur cette situation. Nous sommes le 14 juillet 2012 dans les studios de Michapi Voice TV. Marie-Noël Kabuya et Sheka Irumbo, tous deux de Michapi Voice TV, sont aux commandes de cette émission. Ce jour-là, notre invité du jour est Monsieur Étienne Kambalé, alors président ad intérim de la société civile du Nord Kivu.
Nous allons prendre Franck qui nous appelle depuis Kigali. Bonjour Franck.
Bonjour. On va aller au-delà de simples réprimandes que nous sommes en train de donner. Hein. Parce que si on se souvient bien l'histoire des génocides que nous avons vécu au Rwanda, il y avait le problème de gens qui brûlaient de maisons. Mais dans ces maisons, il y avait des vaches et il y avait aussi des personnes tutsies. Alors, au lieu que le gouvernement réprimande la mort d'une personne, le gouvernement réprimandait la mort de la vache. Ce qui a fait que, en fin de compte, on arrive au génocide. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne devrions pas avoir juste les réprimandes comme on réprimande cette manifestation à la radio. J'ai entendu aussi le gouverneur du Nord Kivu, la société civile. Seulement si on pourrait poursuivre ces gens par une enquête des gens qui ont mené ces histoires, même des motards, peut-être ils pourraient nous amener jusqu'à aux manipulateurs comme vous le dites aussi. Parce que les conséquences peuvent risquer d'aller au-delà de cette histoire que nous sommes en train de relater aujourd'hui dans la génération.
De quelles conséquences
Le problème, c'est que imaginez si, ici à Kigali, on se mettait aussi à combattre les Congolais qui sont là, à les chasser. C'est déjà un conflit qui va dépasser les bornes.
Merci beaucoup, Franck. Nous allons passer à autre chose et nous allons nous rendre au Burundi pour écouter Nestor Nkuruziza. Il est consultant en journalisme et a travaillé pour cette forte commune grande à Bukavu. Il est au micro des Pacifiques Chubairo. Il nous dit combien une bonne communication peut réduire les conséquences en rapport avec la cohabitation pacifique. Il nous trace aussi les rôles de l'autorité morale et politique au Congo. On l'écoute.
Burundi, on dit quoi ?
D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au Congo, ce genre de crise n'est pas nouvelle, mais alors pas du tout. C'est vraiment récurrent. Je pourrais revenir sur la crise de 2004, au mois de juin. Il y a eu sur Bukavu, notamment, une attaque de celui qu'on appelait Jules Mutebusi, c'est aussi avec Nkunda, qui venait de Goma, et puis donc, on a pris Bukavu en tenaille. Et bien entendu, le Rwanda aussi avait été quelque peu épinglé, à tort ou à raison, je ne saurais le dire, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une crise telle que ceux qu'on appelait Banyamulenge avaient dû fuir le Congo. Ceux qui habitaient Bukavu et les environs, ils ont dû fuir vers le Rwanda. Et c'était tellement, tellement fort que pour revenir, je me souviens, il y avait tellement, tellement de peur qu'on a beaucoup manipulé ce genre de choses. Donc, cette crise-là, elle a eu lieu. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait notamment le centre Le Collet qui avait fait une initiative de faire rencontrer des jeunes Banyamulenge avec des jeunes de Bukavu, d'autres tribus. Bon, c'était des rencontres graduelles. Donc, ils ont pris langue, ils ont commencé à dialoguer. Notamment, d'abord à l'extérieur, on les a fait rencontrer à Kampala, je me souviens. Et puis, donc, c'était 10 jeunes Banyamulenge avec 10 jeunes d'autres tribus qui venaient de Bukavu. On les a fait rencontrer à Kampala et après, donc, petit à petit, ils se sont dit, alors, pourquoi ne pourrait pas se rencontrer finalement à Bukavu? Et c'est comme ça que l'initiative a été aussi appuyée par la société civile de l'époque et ce qui a permis, donc, le retour progressif des Banyamulenge. Donc, on avait créé, avec le dialogue, des conditions nécessaires pour le retour d'une partie de la population congolaise.
Et la voix de l'autorité. Autorité, ça peut être une autorité morale, une autorité politique, est toujours importante. Qu'est-ce que doit faire une telle autorité dans ces circonstances?
Moi, je crois que tout repose essentiellement sur la communication. Comment est-ce qu'on communique envers la population? Alors, je prendrai d'ailleurs trois niveaux à mon avis. Le premier niveau, ça me semble être le niveau de l'autorité politique. Et le message que l'autorité doit diffuser, c'est un message de rassemblement, non pas un message d'accusation. Et je crois que jusqu'ici, on a vu le gouvernement congolais s'est vraiment retenu pour ne pas dire tomber dans les accusations qui pourraient devenir réciproques. Mais donc, commencer par donner l'information nécessaire et surtout chercher à faire passer un message qui rassemble. Alors, la deuxième autorité, qui me semble d'ailleurs souvent très efficace, c'est l'autorité religieuse. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, et même dans tout le Congo, les confessions religieuses prolifèrent et c'est des églises qui sont fréquentées par toutes les tribus. Donc, on ne fait pas de distinction entre celui-ci et celui-là. Et c'est à mon avis un cadre privilégié pour dire aux gens, c'est vrai, il y a des intérêts. Mais l'intérêt commun, c'est lequel? C'est la cohabitation pacifique. C'est comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes? Parce qu'en fait, il y a des problèmes, c'est évident. Quand il y a conflit, c'est qu'il y a un problème. Ou il y a plusieurs problèmes. Donc, les problèmes, on y trouve des solutions ensemble. Le troisième niveau, à mon avis, ça me semble être celui des médias. Et pour ça, la première chose, c'est de prévenir la rumeur. Parce que je connais ces villes-là, Bukavu, Goma, la rumeur est très facile. Tu vois, il y a trois choses qui favorisent la rumeur. C'est lorsque les médias ne donnent pas un message, donc ils sont censurés. C'est lorsque les médias ne sont pas acceptés par la population, donc ne sont pas crédibles. Et troisièmement, lorsqu'il y a une forte tension sociale. Donc, il est important que les médias locaux puissent vraiment informer correctement sur la situation pour contrer la rumeur qui pourrait devenir destructrice en quelque sorte. Parfois, la rumeur, quand elle vient, elle n'est pas pour construire. Tout le sait très, très bien. Alors, le troisième niveau qui me semble important, c'est la population elle-même. Comment est-ce que les citoyens congolais peuvent se comporter? Il me semble que la première chose, c'est de se parler, très souvent. Se parler, voir le voisin, ne pas considérer comme quelqu'un qui te cache quelque chose. Et instaurer un dialogue qui pourrait être entre communautés peut-être, parce qu'il y a beaucoup de communautés au Congo. Et très souvent, on épingle telle communauté en fonction de la tension qu'il y a. Et donc, c'est important de ne pas tomber dans le piège de l'accusation réciproque et se dire plutôt, restons sereins, voyons ensemble comment on peut progresser ensemble. Et là, il me semble en fait que l'autorité va devenir, va avoir aussi un rôle à jouer. L'autorité à la base ou l'autorité au sommet. Donc, l'autorité qui doit faire en sorte qu'il y ait toujours le respect de la loi. C'est très important que la police joue son rôle, que la justice joue son rôle pour qu'il n'y ait personne qui puisse, par exemple, se faire justice. Parce qu'il suffit d'un petit rien pour que l'étincelle devienne embrasée.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Bonjour à tous, c'est Juan Gomez de RFI. Tous les samedis sur vos radios, écoutez Génération Grand Lac.
Août 2012. Pour la première fois, Génération Grand Lac quitte les studios et va sur terrain à la rencontre de ses auditeurs. Ce jour-là, nous enregistrons Génération Grand Lac en public depuis Gisenyi au Rwanda, et cela à l'occasion d'une activité dénommée Chantier pour les volontaires de la paix, un chantier avec des jeunes en provenance du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Occasion pour Génération Grand Lac de se rendre sur les lieux pour parler de cette activité et surtout des échanges entre jeunes des Grands Lacs. À la présentation de cette émission, Marie-Noël Kabuya de Goma et Sandrine Isheja de la radio Isango Star de Kigali.
Nous sommes avec des jeunes du Rwanda, du Burundi et ceux de la RDC qui sont présents ici à Gisenyi depuis 2 semaines pour exécuter un travail en commun, la construction d'un terrain de football. Ils sont là avec nous, une production signée Search for Common Ground.
Je vais me pencher de l'autre côté, c'est un animateur rwandais, il va peut-être encore nous rappeler son nom et nous dire s'il y a des avantages et lesquels.
Oui, moi c'est Jean Twahirwa. Moi je dirais qu'il y a seulement que des avantages. Parce que vraiment passer 2 semaines ensemble, moi je le dirais comme animateur, j'ai vu tant de choses. Juste le premier jour, il y avait des préjugés. Les Rwandais disaient que les Congolais sont des escrocs. Les Congolais ont dit que les Rwandais sont des mauvais. Les Burundais ont dit aussi que les Congolais sont des escrocs. Avec tout ça, en partageant, en dialoguant, on a vu que s'il y a un Congolais qui est escroc, ce n'est pas tous les Congolais. S'il y a un Rwandais mauvais, ce n'est pas tous les Rwandais qui sont mauvais, ainsi que les Burundais. Mais après avoir discuté sur les préjugés et stéréotypes que les uns ont envers les autres, on a pu voir qu'il y a une collaboration. D'ailleurs, ils passaient la nuit dans une même chambre. Il y avait soit les Rwandais, soit les Congolais ensemble, soit un Burundais ou un Congolais ensemble, un Rwandais et un Congolais ensemble. Le partage était vraiment très satisfaisant.
Dans ce contexte de tensions et méfiance entre les communautés de part et d'autre des frontières des Grands Lacs, certains ont estimé que ce genre de rencontres entre jeunes des différents pays peuvent contribuer à atténuer les tensions actuelles ou mieux contribuer à une bonne cohabitation entre les populations des Grands Lacs. Voici ce que nous ont confié respectivement ces jeunes de Kigali au Rwanda, de Kinshasa en RDC et Bujumbura au Burundi.
Oui, je pense que ce serait bien si les jeunes pouvaient se rencontrer, les jeunes de la région des Grands Lacs, s'ils avaient cette possibilité de discuter. Vous savez, quand on voyage, on apprend énormément. Si, par exemple, un jeune Rwandais quitte ici pour aller à Goma, si, je veux dire au Congo, si un jeune Congolais quitte le Congo pour aller au Kenya, ou bien vice-versa, ça contribuerait énormément à réduire les tensions entre les communautés différentes de tout le pays de la région. Parce que si vous voyagez, vous apprenez beaucoup, vous éliminez les préjugés que vous avez, parce que vous faites face quotidiennement de la réalité. Vous savez, on apprend beaucoup à travers la radio, ce que nous disent les médias. Et parfois, ce n'est pas toujours correct ce que disent les médias de différents pays. Donc, si on avance bien dans la vie, quand on fait face à la réalité, pas ce que nous disent les médias. Alors, je pense que s'il y avait cette pratique, si les jeunes pouvaient voyager, discuter, s'il y avait cette culture de débat entre les jeunes de différents pays de la région, je pense que oui, ça éliminerait tout ce qui ne va pas. Et ça apporterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à tous les pays de la région.
Congo, on dit quoi ?
J'estime qu'avec des rencontres dans la région de Grand Lac, lorsqu'il y a l'union, il y a également des retombées et cela permet à toutes les parties de regarder dans la même vision pour le bien-être de la communauté. Ça favorise également la paix.
Lorsque les jeunes se rencontrent, ils peuvent changer quelque chose. Dans la mesure où ces jeunes-là sont appelés à vivre ensemble. Quand ils échangent, ils ont quand même un point de vue commun qu'ils peuvent proposer aux politiques. Souvent, les problèmes qui se posent dans les Grands Lacs concernent plus par des cas les politiciens. Et quand nous jeunes, on se retrouve dans nos rencontres, nous avons des choses à nous dire. Et ces choses-là, lorsque nous les mettons ensemble, lorsque nous échangeons sur un point de vue commun et qu'on les propose aux politiques, j'espère que ça peut faire évoluer les choses. J'appuie ces échanges dans la mesure où les jeunes eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire.
Burundi, on dit quoi ?
Ce genre d'échange, ça peut aider dans la résolution des tensions qui pourraient exister entre les jeunes de ces différents pays. Tout ça va dépendre justement de la politique. Ce serait dans un cadre d'une politique qui vise la pacification de la région. Par exemple, quand on organise, comme je l'ai dit avant, des rencontres sportives, des rencontres culturelles, et autour de ces rencontres, quand on aborde des thèmes comme la paix, la pacification de la région, le développement de la région, tout ce qui pourrait développer la région, tout ce qui pourrait caractériser les bonnes relations. Surtout que nous savons que quand les jeunes sont désœuvrés, ils sont facilement manipulables par les politiciens qui ont d'autres visions.
Lorsqu'il y a des échanges entre les jeunes, ça permet d'abord aux jeunes de pouvoir non seulement se regrouper ensemble, mais également c'est une occasion pour ne pas leur permettre à tout moment d'être manipulés, de ne pas avoir du temps pour être au terrain et pouvoir continuer à faire leur bavure. Ça permet également de renforcer la fraternité et la cohésion sociale au niveau de la région. Comme ça, lorsqu'il y a le renforcement de la cohésion sociale, ça permet à ces jeunes de au moins apprendre à ce moment les conséquences des conflits ou bien les causes des conflits, de pouvoir contribuer à la construction de notre sous-région au lieu de continuer à la détruire.
À cette émission ont également pris part certains officiels de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPG.
Je vois à ma gauche un représentant de CEPG, cette communauté qui réunit nos trois pays, Monsieur Lititi, secrétaire général adjoint chargé des programmes. Pourquoi les échanges entre jeunes comme ça? Et dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a un plus lorsque les jeunes se retrouvent?
Oui, merci beaucoup. Pourquoi ces échanges entre les jeunes? Je crois que quelqu'un l'a dit ici. J'ai suivi un auditeur qui parlait à partir de Kigali. Il a dit exactement ceci. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Je voudrais aborder exactement dans le même sens. Pourquoi est-ce que nous réunissons les jeunes aujourd'hui? Nous pensons que la communauté sera demain. C'est que nous allons faire de la jeunesse aujourd'hui. Alors, vous me posez la question dans le contexte d'aujourd'hui, où il y a des conflits dans la région, pourquoi est-ce que nous réunissons les jeunes? Eh bien, je peux vous dire que quand on vit une situation de conflit comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans la région, les négociations se passent à trois niveaux. Les négociations peuvent se passer au niveau politique, les négociations peuvent se passer au niveau diplomatique, mais les négociations peuvent se passer aussi au niveau de la coopération. Coopération économique, coopération sociale. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui ici dans ce chantier à Bungagali, nous sommes en train de travailler au niveau de la coopération sociale. Nous essayons de porter un message à travers les jeunes, de porter un message de paix, un message qui interpelle les trois pays pour dire que nous sommes ensemble, nous avons une histoire commune. Nous avons un passé commun, nous avons une culture commune, nous avons même des intérêts communs. Donc nous voudrions à ce que ces relations qui ont toujours existé entre les trois pays de la CPGL, j'ai cité le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, que ces relations s'affermissent davantage. Malgré les problèmes ne manquent pas. Même dans une famille, même dans un foyer, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas envisager des solutions de toutes sortes. Voilà une des solutions. Faire passer le message de paix dans la jeunesse. Parce que nous pensons que si la jeunesse intériorise les idées de la cohabitation, les idées de la résolution des conflits de manière pacifique, nous pouvons donc espérer que la communauté économique des pays des Grands Lacs sera demain ce que nous allons faire de la jeunesse aujourd'hui. Parce que la jeunesse, comme je l'ai dit, c'est l'avenir de demain. En deux mots, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas reconstruction sans la paix. La paix reste le facteur essentiel. Et le message que je leur adresse, c'est justement d'intérioriser la paix, d'intérioriser les idées de la paix, de cultiver la paix pour que, enfin, nous puissions entamer le processus de développement, le processus de construction et de reconstruction de notre communauté.
Parce que nous partageons l'histoire, l'espace et le destin.
Parce que nous ne sommes pas une génération prisonnière de son passé.
Nous disons non à la haine et aux divisions.
Oui au dialogue et à la coopération entre nos peuples.
Avec Génération Grand Lac, nous brisons les frontières. Nous tissons les ponts par-dessus nos différences.
Tous les samedis de 13h à 14h, heure de Kinshasa, et de 14h à 15h, heure de Kigali, Bujumbura et tout l'est de la RDC, les jeunes de Grand Lac se parlent sur vos radios.
Isanganiro de Bujumbura,
Isango Star de Kigali,
Salus de Butare,
Misha Pivoy TV de Goma,
et la RTGA de Kinshasa.
Terminons bien malgré nous cette rétrospective GGL 2012 par un clin d'œil à tous ces auditeurs qui nous sont fidèles tous les samedis en direct au téléphone ou sur Facebook. Certains ont tenu à dire quelques mots sur GGL, mais aussi à adresser leurs vœux pour la nouvelle année 2013. Petit tour d'horizon dans la région des Grands Lacs, on écoute.
Burundi, on dit quoi ?
En grande partie, je pourrais dire que j'ai entendu comment les jeunes participent dans l'organisation de leur pays. C'est vrai, un pas qui a été franchi, mais je dirais qu'il y a encore du travail pour que nous, la jeunesse qui sommes, le grand pourcentage de la population, puisse avoir plus d'importance dans la gestion de nos nations. Pour donc l'avenir, je pourrais dire qu'avec les moments qu'on a eu pour partager nos idées, ça serait très intéressant d'avoir des cadres où on pourrait avoir les jeunes venant de tous ces trois pays qui pourraient partager de différentes idées. Pour la suite, je souhaite à GGL et aux participants meilleurs vœux joyeux Noël.
Moi, j'apprécie beaucoup l'émission Génération Grand Lac parce que c'est une émission qui constitue une tribune d'expression pour les jeunes de la sous-région. Il permet aux jeunes de s'exprimer sur des questions d'intérêt propre à chaque pays ou des questions qui intéressent la sous-région dans son ensemble. Génération Grand Lac donc permet aux jeunes de s'exprimer, de prendre connaissance des réalités qui existent dans les pays limitrophes et on peut éventuellement apprendre des expériences des autres jeunes de la sous-région. Il y a un certain nombre de défis que j'ai pu relever au cours de l'émission GGL. Premièrement, je trouve que il y a un difficile accès pour les jeunes, surtout lorsque on est par exemple au Burundi et que l'émission passe au Rwanda ou en RDC Congo. Il est dans ce cas difficile pour les jeunes burundais d'appeler au cours de l'émission et de donner les contributions et vice versa. Le deuxième défi, c'est le calibre de vos invités. Moi, je proposerais à ce que vous invitiez souvent les jeunes leaders. J'ai constaté que dans la plupart des émissions, vous invitez par exemple un responsable politique, ce que je pourrais appeler un vieux routier de la politique ou d'autres spécialistes de certaines questions qui intéressent la vie de la sous-région, mais je proposerais à ce que, en plus de ces personnalités-là, il faudrait inviter les jeunes leaders dans des associations ou dans des partis politiques. Il y a des jeunes qui assument des responsabilités. Il faudrait donc les inviter et ça constituerait un moyen pour nous, les jeunes, de voir la maturité d'esprit de nos confrères et leurs jeunes, mais aussi de détecter les talents des uns et des autres. Je dis vraiment meilleure vie à GGL et à tous les auditeurs.
Durant l'année 2012, j'ai pu retenir que c'est vraiment une émission qui rassemble les idées des jeunes et j'ai pu constater que ce sont vraiment des idées constructives qui peuvent faire à ce qu'on puisse aboutir à quelque chose de très important. Et je crois que ce que l'on pourrait faire, c'est continuer dans l'objectif de donner parole à tout le monde, surtout les jeunes, de tous les pays des Grands Lacs, et surtout ne pas se focaliser uniquement aux jeunes urbains. Il faut songer à partager les idées des jeunes ruraux. Oui, je souhaite un meilleur vœu pour 2013 à tous les auditeurs de GGL et à tous les jeunes en général.
Rwanda, on dit quoi ?
Avec GGL, j'ai beaucoup appris. J'ai appris la population ressortissante de la région de Grand Lac, surtout à la recherche de la paix. Car notre région, c'est une région qui est vraiment menacée de l'insécurité. Voir comment est-ce que tout le peuple ressortissant du Grand Lac pouvait s'entendre et voir bien que nous sommes des voisins. En tout cas, avant tout, je remercie le bon Dieu qui m'a gardé avec toute ma famille. Le Rwanda, là où je vis, mes dédicaces vont directement à ma famille que j'aime beaucoup, à Bukavu, Goma, Kinshasa et même en Europe, mes frères avec qui nous prions ensemble à l'église Victory Church of Rwanda. Bonne nouvelle.
L'émission GGL nous a appris beaucoup de choses. Je me dis même que c'est une émission qui est un vecteur communiquant, n'est-ce pas, les valeurs, donnant l'information, l'éducation à toutes les populations qui ont choisi les grands espaces Grand Lac comme leur dernier demeure. Cette émission a permis, n'est-ce pas, le rapprochement de cette communauté. Ça nous a permis aussi de comprendre comment ça fonctionnait, n'est-ce pas, dans ces différents espaces de la communauté de Grand Lac. La dernière émission qui a plus retenu mon attention, c'est quand vous avez produit l'émission sur comment s'organiser les transports sur l'espace de Grand Lac. Ça, c'est l'émission qui m'a plus attiré, mais vu à l'endroit de tous les organisateurs de cette émission, ils nous ont permis, n'est-ce pas, de comprendre comment ça fonctionnait. Je pense à notre petite sœur Sandrine, Yves Achille. Sans lui, peut-être que nous ne serons pas en contact directement avec l'émission. Notre ami qui vient de Burundi, la Pacifique, qui tu trouves ici l'expression, n'est-ce pas, de ma gratitude. Ma famille qui est à Kinshasa, mon ami Christophe Masumbuku.
Génération Grand Lac a abordé différents sujets, la vie quotidienne, la vie de nos pays respectifs, qui tient à cœur. Les jeunes de la région ont été traités. Nous avons pu entendre les opinions des jeunes de la région, là où des idées divergentes ont été rassemblées. Nous avons trop appris, il y a eu des experts, des personnes qui ont été invitées par la génération Grand Lac, qui nous ont permis à connaître, avoir une certaine connaissance plus avancée ou approfondie sur les sujets qui ont été traités. Le rendez-vous de chaque samedi fut vraiment des très bons rendez-vous dans lesquels tout jeune a pu s'y trouver. Je crois que la génération Grand Lac a joué sa part, a joué son bon rôle d'être toujours là chaque samedi, à permettre aux jeunes de s'exprimer, à présenter leurs opinions. Aussi, il a permis aussi les jeunes à se rencontrer parce que les émissions ne se sont pas toujours passées dans des studios. Les jeunes de la région se sont rencontrés. Les souvenirs que je garde, c'est la dernière rencontre qu'il y avait entre les jeunes de la région, respectivement à Gisenyi, à Loavu. Bon, je crois que pour l'an 2012, la génération Grand Lac a joué son bon rôle. Et pour l'an 2013, je crois que les choses vont continuer.
Génération Grand Lac apporte aux jeunes d'interagir sur les différents sujets qui touchent la région de Grand Lac et ça permet aux jeunes de s'exprimer et de donner leur avis sur les différents sujets qui ont été débattus tout au long de cette année. Mon souhait étant que jeune de la sous-région, qui est la paix, et j'aimerais bien que les jeunes participent au dialogue pour une paix durable dans la région de Grand Lac. Enfin, mon vœu à tous les jeunes qui suivent Génération Grand Lac.
Le commandant, j'espère que vous avez effectué un agréable voyage et voudrais remercier l'équipage.
C'est par ces voeux de nos auditeurs que s'achève ce long voyage dans le couloir et méandre des GGL pour l'année 2012. J'espère en tout cas que ce voyage vous a plu. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de l'effectuer avec vous. Votre guide en ce jour était Nicolas Gatambi. Et je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour tout ce que vous avez partagé avec nous tout au long de l'année 2012. Sinon, nous espérons que 2013 sera encore meilleur avec vos contributions respectives dans les trois pays. Au nom de toute la grande équipe des Générations Grand Lac, nous vous souhaitons de passer une heureuse année 2013 à toutes et à tous jeunes du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Merci encore de rester fidèles à Générations Grand Lac et au grand plaisir de vous retrouver tous les samedis, même heure et même fréquence. Bonne année 2013 à toutes et à tous. Paix dans vos pays et vos familles et paix dans notre chère région des Grands Lacs. Merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye.
Nous les jeunes de la région des Grands Lacs, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Chers jeunes de la région des Grands Lacs, unissons-nous pour la paix dans notre région. Grand Lac, Grand Lac, Grand Lac, Grand Lac.
Écoute,
Génération Grand
Lac. Génération Grand Lac.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow.
Je dis pas toi.
Toi et moi nous sommes génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.